65 ans de l'indépendance de la RDC.
Radio Maria organise un plateau spécial sous le thème
Bilan et perspectives, rôle et apport des cadres et dirigeants catholiques.
Bonjour chers auditeurs de Radio Maria RDC et bonjour très chers internautes, vous nous suivez de partout. C'est le plateau spécial Radio Maria RDC, 65 ans d'indépendance. Nous recevons pour vous monsieur Paul Gaspard Ngondankoyi, il est professeur ordinaire en droit public à l'université de Kinshasa Unikin en sigle. Il est en même temps député national de la circonscription électorale de Yaouma dans la province de la Tchopo. Monsieur Paul Gaspard Ngondankoyi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes juriste de formation. 65 ans après l'indépendance de la RDC, quelle est la situation juridique de la République démocratique du Congo?
Merci de l'invitation et merci de la question. C'est une question importante, mais en même temps difficile, parce que ça demande que nous puissions faire le bilan de 65 ans d'indépendance nationale dans le domaine juridique, qui est le domaine qui me concerne. Bon, moi je dirais que, de prime abord, le Congo existe comme État grâce à une série de textes qui ont été adoptés ou conclus au XVIIIe siècle, entre d'une part l'Association internationale du Congo, qui était créée par le roi Léopold II et sous la direction de Henri Morton Stanley, et un certain nombre de nos chefs coutumiers. Et ces textes-là, c'était ce qu'on appelle des traités de cession des territoires. Et il y en a eu plusieurs, les historiens pensent que c'est à peu près autour de 500, qui ont été signés. Et c'est comme ça que, par touches successives, à partir de la partie ouest du pays, jusqu'au nord, en passant par l'est, qu'on a pu reconstituer les territoires que nous avons aujourd'hui, les territoires de 2 345 410 km². Par la suite, il y a eu des traités de délimitation et reconnaissance des territoires. Ce sont des traités que l'Association internationale du Congo a signés avec certaines puissances étrangères, occidentales principalement, lesquelles puissances ont reconnu non seulement les territoires de l'AIC, mais également sa souveraineté sur ces territoires-là, en reconnaissant les drapeaux de cet État. Et comme c'est une association qui était fondée par Léopold II, Léopold II a eu des titres qu'il a présentés à la conférence de Berlin en 1885, qui lui ont permis d'obtenir la reconnaissance des autres puissances sur cette possession qu'il a acquise en Afrique. À partir de là, l'État est né. Il y a eu la déclaration de Vivi en 1885, qui a reconnu Vivi comme la première capitale du pays. Et on a nommé des administrateurs qui ont commencé à administrer ces territoires. L'État indépendant du Congo donc est né à partir de ce moment-là. Et de 1885 à 1908, il a fonctionné sous ce mode colonial en union personnelle sur la personne du roi Léopold II qui était devenu roi souverain. Par la suite, à la suite des difficultés d'ordre financier, notamment Léopold II a dû céder le Congo à la Belgique. La Belgique a pris également un certain nombre d'actes juridiques, notamment des lois votées par le Parlement belge pour organiser l'État, au point de vue administratif, au point de vue économique, lui donner donc les moyens juridiques de son fonctionnement. Ici, on connaît une des lois la plus importante à l'époque, c'est la loi du 18 octobre 1908, qui est connue comme la charte coloniale, qui était une loi votée par le Parlement belge conformément à la Constitution belge et qui a organisé les structures politiques et administratives de la colonie belge. Et lorsque nous accédons à l'indépendance, il y a eu toute une série de décrets qui ont été pris par le Parlement, soit par le Parlement, décrets pris par le roi, et ensuite des lois prises par le Parlement belge qui a organisé notre République. À l'accession du pays à l'indépendance, suite aux résolutions de la table ronde de Bruxelles, nous avons également bénéficié de deux lois, qu'on appelait deux lois fondamentales, encore votées par le Parlement belge sur la base des résolutions de la table ronde politique de Bruxelles, qui ont constitué en fait la première constitution de la République du Congo indépendante. Il y a eu d'une part la loi du 19 mai 1960 sur la structure du Congo et d'autre part la loi du 16 juin 1960 sur les libertés publiques qui ont formé la première constitution de notre pays. La loi fondamentale du 19 mai 1960 avait prévu qu'une fois indépendant, le Congo allait adopter sa propre constitution. Et le pouvoir constituant, c'était le chef de l'État, composé des deux chambres, qui devait adopter cette loi-là. On recueillait également l'avis des assemblées provinciales. Mais suite à des troubles, à des difficultés qui sont apparues au lendemain de l'indépendance, les autorités de l'époque n'ont pas eu le temps d'élaborer cette constitution à temps. Et il a fallu attendre 1964 pour que le président Kassavou, excédé par cet attentisme, puisse nommer une commission constitutionnelle qui a siégé à Loulouabourg et qui a été chargée d'élaborer la nouvelle constitution de la Nouvelle République, donc 4 ans après l'indépendance. La commission a siégé à Loulouabourg, a adopté un projet de constitution en deux versions, dont l'une était de nature fédérale et l'autre de nature unitaire. Par la suite, la constitution a été promulguée après son adoption par référendum populaire. Il y a un référendum qui a été organisé en 1964. Et le 1er août 1964, le président de la République a promulgué la constitution. Donc on va dire que c'est notre deuxième constitution, mais en tout cas la première qui aurait été élaborée par les Congolais eux-mêmes. Alors, vous connaissez l'histoire politique de notre pays. Les premiers politiciens ne se sont pas entendus dans la mise en place du gouvernement. Les différents gouvernements que le président Kassavou a nommés ne recueillaient pas la confiance des deux chambres du Parlement. C'est le cas notamment du gouvernement Kimba, qui par deux fois n'a pas pu obtenir la confiance. Et à la suite de cela, le colonel Mobutu, à ce moment-là, était déjà devenu général, a dû faire le coup d'État du 24 novembre 1965 pour destituer le président Joseph Kassavubu et pour renvoyer dos à dos et Kimba et je crois Moïse Tshombe qui devait être nommé Premier ministre parce qu'à la suite de ça, c'est lui qui avait gagné les élections avec son cartel. Et donc l'armée a pris le pouvoir et 2 ans après, l'armée a doté le pays d'une nouvelle constitution, la constitution du 24 juin 1967, élaborée sous l'égide des militaires. Et cette constitution a gouverné, a régi notre pays pendant tout le règne du président Mobutu, pendant 32 ans. Mais elle a été modifiée à plusieurs reprises, dont certaines étaient fondamentales, d'autres simplement décoratives, jusqu'en 1990. Quand il fait son discours du 24 avril 1990 pour démocratiser le pays. La constitution a été modifiée pour régir la période de transition qu'il avait prévue au départ à 12 mois. Et quand, à la suite du désaccord avec la classe politique, la Conférence nationale souveraine a été adoptée, il y a eu une divergence entre le président de la République et la Conférence nationale souveraine. Et la Conférence nationale a adopté ce qu'on a appelé l'acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition qui devait remplacer la constitution de la Deuxième République. Le président Mobutu n'ayant pas promulgué cette loi, il y a eu donc une crise qui s'est installée et il a ressuscité l'ancien conseil législatif qui, cette fois-ci, a ressuscité aussi la constitution de la Deuxième République et suite à un compromis politique qui a été trouvé dans une localité à côté de Mbandaka qu'on appelle Yonji. Ils sont revenus ici, ils ont adopté un acte constitutionnel harmonisé, lequel a régi le pays jusqu'en 1993. Encore une fois, la crise a éclaté entre le président Mobutu et le président Tshisekedi. Et à ce moment-là, on a vécu une période de dédoublement institutionnel et constitutionnel. Le président Tshisekedi estimant que étant élu par la Conférence nationale souveraine, il avait la légitimité de former son gouvernement et qui pouvait se référer à l'acte portant disposition concernant relative à la période de transition. Par contre, le président Mobutu s'en tenait à la constitution harmonisée de 1993. Il y a eu des négociations qui ont été organisées sous l'égide notamment de l'Église et avec l'implication forte de Monseigneur Mosengo, qu'on a appelé les concertations du Palais du Peuple et qui ont donné lieu en avril 1994, à une nouvelle constitution de la transition. Et cette nouvelle constitution de la transition a vécu jusqu'en 1997, à l'entrée de l'AFDEL, qui, à cause de cette révolution, a non seulement abrogé la constitution antérieure, mais a doté le pays d'un texte qu'il a appelé le décret-loi constitutionnel de 1997, qui est un texte très bref, qui ne contenait pas de chapitre sur les droits de l'homme, qui réglementait uniquement l'organisation et le fonctionnement du pouvoir d'État. Et ce texte va résister jusque pratiquement au dialogue intercongolais de Sound City, parce qu'à la suite de ça, il y a eu des guerres, il y a eu des accords qui ont été signés au niveau national, au niveau régional. Et le dialogue intercongolais a levé l'option de doter les pays d'abord d'une constitution de la transition, ensuite d'une constitution définitive, celle que nous avons aujourd'hui, la constitution du 18 février 2006. Donc vous voyez que depuis sa création jusqu'aujourd'hui, notre pays a connu énormément de textes de nature constitutionnelle. Et celle que nous avons aujourd'hui est même en train d'être critiquée. Et certains pensent même qu'il faut la réviser ou la changer carrément. Voilà un peu l'histoire des textes juridiques que nous avons connus dans ce pays. Et je me suis limité ici aux textes fondamentaux, c'est-à-dire aux textes constitutionnels.
Est-ce que 65 ans après l'indépendance, on peut dire que nous avons aussi connu des crises constitutionnelles, parce que vous avez évoqué les constitutions?
Je dirais même que toute notre histoire politique est émaillée d'innombrables crises constitutionnelles. La première crise qui est née, c'est celle qui avait opposé, j'en ai pas parlé, le président Joseph Kasavubu et le premier ministre Lumumba. Sur la base de la loi fondamentale du 19 mai 1960, le président Kasavubu avait estimé qu'il avait le pouvoir de révoquer le premier ministre Patrice Emery Lumumba, parce qu'il ne s'entendait pas sur la composition du gouvernement, sur les leaderships du pays. Et il a pris une ordonnance révoquant celui-ci. Le premier ministre Lumumba, étant fort de sa majorité au Parlement, est allé également à la radio pour destituer le président de la République. Donc c'était la première crise constitutionnelle qui est née, qui avait raison, qui avait tort. Chacun, en tout cas, se référait à la loi fondamentale. Donc c'est la toute première crise que nous avons connue. La deuxième crise, on va dire, c'est justement celle qui a opposé le président Kasavubu, encore une fois, avec le premier ministre Tshombe, au sujet de la nomination du nouveau premier ministre issu des élections de 1964. Je vous l'ai dit ici, Tshombe, avec son cartel, était sorti majoritaire. Et d'après la Constitution, normalement, c'est lui qui devait être nommé Premier ministre. Mais le président Joseph Kasavubu a refusé de le nommer, a nommé Evariste Kimba à la place. Et comme Tshombe avait la majorité au Parlement, le Parlement n'a pas investi le gouvernement à Kimba. Donc la crise politique est née encore une fois. Et là, cela a obligé l'armée à intervenir. Nous en avons connu, non pas tellement pendant la Deuxième République, mais pendant la période de transition où il y avait des conflits entre le président Tshisekedi et le président Mobutu, notamment sur la question de la prestation du serment du nouveau Premier ministre de la Conférence nationale souveraine. Vous vous souvenez de l'épisode où le Premier ministre avait barré le texte de la Constitution. Et donc, je dirais, toute l'histoire de notre pays est émaillé d'énormément de crises institutionnelles et constitutionnelles.
Professeur, alors faut-il changer d'homme ou bien il faut changer la mentalité de l'homme congolais pour remédier à ces multiples crises?
Ah, je pense que vous avez touché le point central. Plus qu'un problème institutionnel ou structurel, nous avons un problème d'homme, un problème de mentalité. Si en 1960, on a souligné le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'universitaires qui pouvaient bien comprendre les enjeux politiques et constitutionnels de l'époque pour gérer le pays. Aujourd'hui, on n'a plus cette excuse-là, parce que nous avons énormément d'universitaires dans tous les domaines, on s'est compris dans le domaine constitutionnel, dans le domaine des sciences politiques, des relations internationales, etc. Mais qu'est-ce qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, le constitutionnalisme, qui est cette doctrine qui consiste à respecter la Constitution, à limiter les pouvoirs des dirigeants par le respect des droits fondamentaux, qu'est-ce qui fait que cette culture n'est pas encore vraiment ancrée dans nos mentalités? Ça, c'est une question que les sociologues, les psychologues, c'est une question à laquelle ils peuvent répondre. Mais pour ce qui nous concerne, nous les juristes, on se limite à dire que généralement les gens ne respectent pas la loi. La première tendance que l'homme a, c'est de réfuter tout ce qui vient limiter sa liberté. Et la loi a pour vocation d'abord de limiter les pouvoirs des uns et des autres. Et ceci se répercute sur le plan constitutionnel lorsque les dirigeants arrivent au pouvoir par des méthodes non démocratiques. Ils ont tendance à ne pas respecter la Constitution, à se considérer même comme ils sont au-delà, au-dessus de la Constitution, et à vouloir même la changer, la réviser à leur guise. Donc c'est un problème fondamentalement d'homme. Il faut que les gens puissent être imbibés d'une culture juridique, d'une culture démocratique telle qu'ils soient capables de respecter déjà la loi. Et ça, ce n'est pas seulement un problème des dirigeants, même c'est dans la population. Combien de gens respectent les lois? Combien de gens s'abstiennent, par exemple, de jeter par la fenêtre de la maison ou par la portière de sa voiture un papier, etc. On pollue l'environnement nous-mêmes, alors qu'on sait que c'est une infraction. Et donc, c'est une question de culture juridique, une question de constitutionnalisme. Et j'ai toujours l'habitude de dire, on s'est converti au juridisme ou au constitutionnalisme un peu comme on se convertit au christianisme. Nous sommes tous des chrétiens ici, chrétiens catholiques. Quand quelqu'un reçoit l'évangile pour la première fois, on lui prêche Jésus-Christ. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il accepte de vivre conformément aux évangiles. Il accepte de recevoir le baptême. L'Esprit Saint descend sur lui. Et grâce à l'Esprit Saint, il devient une personne nouvelle. Un homme nouveau. Et comme Saint Paul, il peut dire, c'est pas moi qui vis, c'est l'Esprit Saint qui vit en moi. Et là, en ce moment, on peut parler de véritable chrétien. C'est-à-dire un chrétien qui est conduit par l'Esprit Saint de Dieu. Eh bien, il y va de cette conversion au christianisme ou à toute religion, comme pour la conversion au constitutionnalisme. Une fois que vous savez que les lois existent, la constitution existe, vous en connaissez la lettre et l'esprit, vous vous mettez dans la peau de ce que dans la peau du profil que le constituant a dessiné. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous ne pouvez pas en sortir parce qu'en sortir, c'est violer les textes. Et donc, on va essayer de conformer sa vie dans la cité à la loi, au texte de la constitution qui existe. Et là, on peut devenir un bon citoyen et on craint la loi, on craint le gendarme.
Merci beaucoup, professeur. J'ai une dernière question un peu à côté. Vous êtes juriste dans une chambre légiférante. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer vos contributions en tant que juriste pour l'avancement de la chose, de l'aspect juridique, de la Constitution ou du respect des textes?
Merci. Vous soulignez là un aspect. Effectivement, à part ma casquette de professeur de droit constitutionnel, j'ai aussi celle de député national, parce que j'ai été élu aux élections du 20 décembre 2023 dernier. Alors, comme parlementaire, évidemment, vous connaissez les pouvoirs du Parlement, des députés nationaux, c'est de voter les lois et de contrôler le gouvernement, disons l'exécutif de manière générale, sans oublier le fait que nous représentons la population. Donc, nous sommes les représentants du peuple, nous légiférons et nous contrôlons. Et en tant que député national, je participe au pouvoir législatif, à l'exercice du pouvoir législatif, d'abord en prenant des initiatives parlementaires. Donc, pas une proposition de loi, je peux proposer que, permettez la tautologie, qu'un texte de loi puisse naître dans l'arsenal juridique du pays. Et disons pour cette législature, je suis auteur déjà de deux propositions de loi que j'ai déposées. L'une fixant les conditions d'organisation du référendum et la deuxième modifiant la loi organique sur la Cour constitutionnelle. Alors, la première loi qui vise à organiser les référendums dans notre pays est fondée sur l'article 5 de la Constitution qui prévoit qu'une loi peut fixer ces conditions-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que le peuple congolais se déclare à l'article 5 de la Constitution qu'il est le détenteur du pouvoir. Tout pouvoir émane de lui et il l'exerce soit indirectement par les représentants, soit directement par l'élection ou par les référendums. Donc le peuple exerce son pouvoir direct par ces deux mécanismes-là. Il y a aussi la pétition qui est à l'article 27, mais disons qu'en toute démocratie, en démocratie directe, les trois principaux mécanismes sont là. Alors, nous avons une loi sur les élections qui date de 2006, qui a été modifiée par la suite. Mais nous n'avons pas encore une loi sur les référendums, ni sur le droit des pétitions. Alors, j'ai pris l'initiative de proposer cette loi pour fixer les conditions d'organisation du référendum. Parce que, selon notre constitution, le peuple doit être consulté au référendum au moins dans trois matières. Lorsqu'il s'agit de décider du transfert de la capitale, lorsqu'il s'agit de conclure des traités de cession, d'adjonction ou d'échange de territoires, et troisièmement, lorsqu'il s'agit de réviser la constitution. Alors, dans quelles conditions est-ce que le peuple peut se décider dans ces matières-là? Prenons le transfert de la capitale. Comment aujourd'hui on va consulter le peuple pour transférer la capitale de Kinshasa à une autre localité? Par exemple, chez moi, Kisangani, qui est le centre du pays. Quelles sont les conditions pour que la nouvelle localité puisse accueillir le statut de nouvelle capitale du pays? Il faut que ces conditions soient fixées pour que le peuple soit consulté. En ce qui concerne la cession des territoires, l'échange ou l'adjonction, il n'y a pas de conditions qui sont fixées. Il faut préciser comment le peuple peut être consulté. Est-ce que c'est l'ensemble du peuple? Est-ce qu'il y a une partie seulement du peuple concerné par le transfert? Donc tout ça, il faut le fixer dans la loi. Et enfin, en ce qui concerne les référendums constituants, bien que les articles 218 et 220 de la Constitution en parlent déjà, moi, je précise dans la loi certaines conditions de recevabilité ou de non-recevabilité des initiatives. J'ai dit, par exemple, dans cette loi, que puisque le constituant lui-même a limité le pouvoir du Parlement et non de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès en matière de révision constitutionnelle, j'ai prévu d'abord des mécanismes d'irrecevabilité des initiatives qui vont à l'encontre des articles 218, 219 et 220. Donc, toute personne qui prendrait une initiative aujourd'hui pour réviser ces articles-là, je propose que cette initiative soit irrecevable. Deux, qu'on aille même au-delà pour pénaliser ce comportement. C'est-à-dire quelqu'un qui prend une telle initiative ou quelqu'un qui adopte nous-mêmes au Parlement en violation de ces articles, il y a des sanctions pénales que j'envisage là-dedans pour dissuader les gens à proposer des révisions constitutionnelles qui ne soient pas conformes à la Constitution elle-même. Et puis, je prévois la procédure même d'organisation du référendum avec l'organisation des bureaux de consultation, la campagne électorale, jusqu'au vote du texte lui-même. Mais, je prévois dans cette loi, et il faut que le peuple le sache, aussi un mécanisme de déverrouillage. Parce que, comme l'a dit un auteur, les constitutions ne sont pas une tente dressée une fois pour toutes pour le sommeil des peuples. Les constitutions sont toujours révisables. Mais est-ce qu'on peut réviser la constitution comme on veut? Alors, il faut prévoir les mécanismes. Aujourd'hui, nous avons les mécanismes de révision, mais nous n'avons pas les mécanismes de changement. Quand est-ce que nous pouvons décider un jour du changement de cette constitution? Et comment? À supposer qu'un jour, on n'en ait plus besoin. De manière claire, la question qui se pose, c'est celle des limites posées, notamment à l'article 220, où il y a des principes qui ne peuvent pas être bougés. C'est vrai que si on en parle aujourd'hui, les gens ont peur, parce qu'il y a certains principes-là qui sont très sensibles. Disons-le très clairement, le nombre et la durée du mandat du président de la République. C'est pour ça que les gens sont un peu dans une sorte de psychose pour dire « Non, il ne faut pas toucher à l'article 220 parce que c'est l'article qui est sanctuarisé. » Je comprends que cet article est lui aussi verrouillé. Mais qu'est-ce que nous faisons si nous voulons augmenter la liste des principes qui sont à l'article 220? Non pas les supprimer, mais en augmenter d'autres. Moi, je suis par exemple pour que le principe du mariage hétérosexuel qui est affirmé à l'article 40 de notre Constitution puisse être porté à l'article 220 de manière à ce qu'on ne puisse pas modifier l'article 40 et que chez nous, le mariage reste toujours hétérosexuel. Et alors, qu'est-ce que nous faisons s'il faut mettre ce principe à l'article 220 si on ne va pas toucher l'article 220? Donc, le peuple lui-même peut s'élever pour augmenter la liste des principes qui se trouvent à l'article 220. C'est pour ça que je propose que, dans ce cas-là, il y ait d'abord un débat qui soit organisé au niveau des spécialistes, des experts. Et si on lève l'option 2, on fait un rapport aux autorités publiques qui existent, notamment le président de la République qui a l'initiative du référendum. lui, il doit prendre l'initiative de consulter maintenant la classe politique, qu'elle soit représentée au Parlement ou non. Et si au niveau de la classe politique, il y a un consensus qui se dégage, on convoque une assemblée constituante qui viendra élaborer et adopter la nouvelle constitution. Et qu'est-ce qu'une assemblée constituante ? Une assemblée constituante, c'est un ensemble des députés qui sont élus directement par le peuple uniquement pour venir adopter la nouvelle constitution. Dès qu'on a adopté, si le peuple a voté une majorité de députés qui sont favorables à la révision, au changement de la Constitution, ils viendront l'adopter parce que c'est la volonté du peuple lui-même. Maintenant, puisqu'il ne faut plus de démocratie, je propose que même l'œuvre de l'Assemblée constituante soit au final soumise à l'approbation finale du peuple. Et si le peuple l'adopte de cette manière, c'est le peuple lui-même qui l'a voulu, qui d'autre peut critiquer le peuple demain? Voilà, c'est le mécanisme que je prévois pour un changement en douceur de la Constitution. C'est pour éviter qu'un individu ou un groupe d'individus se réveille demain matin, puisque tout est bloqué, et qu'on nous impose une nouvelle Constitution par les armes. Et donc, il faut prévoir ce genre de mécanisme dans la loi pour que quand on veut changer une Constitution, qu'on le fasse de manière démocratique et de manière pacifique, sans effusion de sang. Voilà les quelques initiatives que j'ai prises. J'ai parlé de la loi sur la Cour constitutionnelle, mais je pense qu'on n'a plus le temps pour en parler.
Donc, on va vous recevoir dans une émission très élaborée.
Voilà.
Merci beaucoup, professeur.
D'accord. Merci à vous.
Merci, très chers auditeurs de Radio Maria et très chers internautes. Vous avez bien compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission qui a été animée par Jonathan Lambois et accompagnée de Maxime Tantou. Nous avons fait le bilan avec le député national et le professeur ordinaire Paul Gaspard Ngondakoyi. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Merci. N'oublions pas de prier pour notre pays, pour que la paix revienne dans l'Est. Merci et à très bientôt.
65 ans de l'indépendance de la RDC.
Radio Maria organise un plateau spécial sous le thème
Bilan et perspectives, rôle et apport des cadres et dirigeants catholiques.